Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de ce 142e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, un magazine qui, faute d'actualité musicale, se replonge dans ses classiques à travers la série que nous consacrons à Mozart depuis quelques émissions. Si vous avez écouté les numéros précédents, vous savez que nous sommes déjà revenus sur l'enfance et les œuvres de jeunesse du petit génie de Salzbourg, puis sur ses concertos pour piano et ses grands opéras, c'était la semaine passée concernant ces derniers. Trois volets qui nous ont déjà donné l'occasion de réentendre de nombreux chefs-d'œuvre, mais il nous reste encore à explorer plusieurs facettes de l'œuvre mozartienne, et parmi celles-ci, les pièces composées dans le domaine de la musique sacrée. Certes, ce n'est pas le genre qui domine chez Mozart, loin de là, mais ça n'empêche pas qu'on y trouve quelques merveilles, comme dans tout ce que touchait le divin Wolfgang. Pour en parler avec moi, j'ai la chance et le plaisir de retrouver Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord. Michel a la gentillesse de accordé de son temps que je sais très précieux pour participer à cette émission, ce dont je le remercie chaleureusement. Voici un retour arrière sur la partie sacrée de l'œuvre de ce sacré Mozart.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous aussi Michel, très heureux de vous retrouver dans cette émission. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je vais rappeler que le compositeur que vous admirez entre tous, c'est Jean-Sébastien Bach, auquel nous avons dédié ensemble un cycle de 6 émissions en fin d'année dernière. Qui dit Bach dit forcément musique religieuse, musique sacrée qui constitue la grande part de son œuvre. Je disais à l'instant que chez Mozart, la musique sacrée tient une place assez marginale par rapport au reste de sa production. Est-ce qu'on trouve tout de même, selon vous, des pièces majeures du genre ?
Alors oui, je pense qu'on peut le dire. Beaucoup d'auditeurs seraient quand même surpris si je disais le contraire, puisque au moins une des œuvres religieuses de Mozart fait partie des tubes absolus de la musique classique, son Requiem, pour ne pas le nommer. Et donc oui, là, je crois qu'on a vraiment une œuvre majeure du genre, absolument. Le Requiem est une œuvre que j'adore personnellement, mais pour moi, elle n'est pas aussi totalement accompli que les plus grandes œuvres dans ce domaine, par exemple la messe en si de Bach ou bien le Messie de Handel ou etc., etc. Voilà, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette œuvre, dans le Requiem de Mozart, une force, une intensité, une qualité d'écriture, etc. Mais je pense, et c'est peut-être dû d'ailleurs aux circonstances de sa composition, dont on parlera dans un moment, ça n'est peut-être pas un chef-d'œuvre absolu de maîtrise d'écriture sur l'ensemble de la partition.
Il y a aussi une vingtaine de messes dans l'œuvre pour musique sacrée de Mozart, dont la messe du couronnement, la messe en ut mineur. Il y a 9 messes brèves et il y a un Ave Verum Corpus. On va parler de tout ça. Ses premières pièces religieuses vont être justement ces messes brèves. Il va composer la première en 1768 à l'âge de 12 ans, donc il en aura 8 autres hein, jusqu'en 1777. En quoi sont-elles brèves ces messes ? Pourquoi on les appelle comme ça ?
Ben, tout simplement parce qu'elles sont brèves, c'est-à-dire qu'elles sont courtes. Voilà. Ce sont des messes d'une durée moyenne, on va dire, d'un quart d'heure, 20 minutes, alors qu'évidemment, le modèle de la messe qu'on a, nous, en tête maintenant, c'est-à-dire si on pense à la messe en si de Bach, si on pense à la messe de Requiem de Verdi, si on pense à la Missa Solemnis de Beethoven, etc., ce sont des œuvres d'une durée beaucoup plus importante, une demi-heure, voire trois quarts d'heure pour certaines d'entre elles. Et donc, ce sont des œuvres courtes, et puis le mot brève leur va bien, mieux qu'à celle de Bach, hein, puisque on en avait parlé lors des émissions sur Bach. Bach a aussi composé des messes qu'on appelle, mais cette fois-ci abusivement, des messes brèves, qu'on devrait appeler les messes luthériennes. Elles sont brèves donc parce qu'elles sont basées sur le modèle luthérien.
Et non catholique.
Voilà, et non catholique, c'est-à-dire qu'elles ne reprennent pas tous les textes de la messe catholique. Mais il y a aussi un autre aspect dans ces messes brèves de Mozart, c'est qu'elles ont, alors volontairement, un aspect, on va dire, un petit peu naïf, comme d'une petite musique de nuit, on pourrait dire, voilà. Hein. Et donc, les deux choses, leur durée et leur simplicité apparente, je trouve, collent bien avec le mot « messe brève ».
Est-ce que parmi les 9 qu'il a composées, il y en a qui méritent vraiment qu'on s'y attarde et qui comptent parmi les pièces importantes du répertoire sacré, en général, pas seulement chez Mozart ?
Alors, pareil, réponse un peu mitigée. Les extraits que nous allons entendre de la messe brève que j'ai choisi de vous faire entendre, donc la messe brève en sol majeur, que chez 140, sont absolument magnifiques. C'est à fondre de bonheur. Dire pour autant que c'est des chefs-d'œuvre, ce serait excessif, parce qu'on est là plus dans le domaine d'une séduction immédiate, une sorte de bonbonnière musicale, quelque chose comme ça, si vous voulez. Mais un compositeur n'est pas tenu de ne composer que des chefs-d'œuvre. Il peut aussi simplement écrire, composer de la musique plaisante à écouter, très bien écrite, on va l'entendre. Et voilà, donc je les situerai plutôt dans ce domaine-là, comme d'ailleurs beaucoup de la musique de Mozart, puisque Mozart a écrit énormément, et que si évidemment on considère que certains de ses opéras, certains de ses concertos pour piano, par exemple, sont des chefs-d'œuvre absolus de l'histoire de la musique.
Certaines de ses symphonies. Aussi.
Certaines de ses symphonies, absolument. Bon, ben voilà, il y a certaines de ses cassations, de ses divertissements, de ses divertimento, etc., qui sont des œuvres de pur plaisir musical, et ça n'est pas dommage, c'est comme ça et c'est très bien comme ça.
On va donner un premier aperçu de la production mozartienne dans cette forme de la messe brève. Voici un premier extrait de la Missa Brevis numéro 6 en sol majeur KV 140, celle que vous venez de citer, Dona Nobis Pacem, une version dirigée par Peter Neumann. Dona Nobis Pacem de la Missa Brevis numéro 6 en sol majeur KV 140 dans une version dirigée par Peter Neumann, une œuvre de relative jeunesse de Mozart puisqu'elle date de 1773 et qu'il l'a composée à l'âge de 17 ans. Alors pourquoi vous avez choisi de vous faire écouter celle-ci parmi les 9 messes brèves qu'il a composées et notamment ce passage bien précis?
Alors parce que je voulais commencer la découverte de la musique religieuse de Mozart par quelque chose de surprenant, on pourrait dire, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire qui pourrait penser que là on a de la musique religieuse. On dirait une chansonnette très simple, magnifiquement mise en musique, hein, vraiment, voilà, avec toute la subtilité de Mozart, mais la mélodie en elle-même est une mélodie. D'ailleurs, c'était le cas. Ces messes brèves correspondaient à une tradition dans l'endroit où était Mozart à ce moment-là, c'est-à-dire à Salzbourg, qui était de composer ces messes, donc souvent pour la soirée de Noël, et souvent, donc, ben, la soirée de Noël, il y a le côté un petit peu pastoral, un peu naïf, disons, de la crèche, et donc, sur ce mode-là, et en reprenant comme matériau musical des airs populaires qui étaient connus de toute l'assemblée. Et j'imagine très bien que lors de cette messe brève interprétée pour une soirée de Noël, l'ensemble du public reprenait au moment où rentre le chœur, après les deux solistes, hein, la soprano et l'alto, qui commencent ce Dona Nobis, l'assemblée peut fredonner. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quelque chose de simple, de naïf, de frais, de très, très quotidien, quoi, disons, voilà.
Vous avez souhaité que nous écoutions un second extrait de la Missa Brevis numéro 6 en sol majeur, extrait qui précède en fait celui que nous venons d'écouter, Patrem Omnipotentem, et il s'agit encore d'une version dirigée par Peter Neumann.
Thank you.
Patrem Omnipotentem de la Missa Brevis numéro 6 en sol majeur KV 140 dans la version dirigée par Peter Neumann. Vous avez donc souhaité diffuser cette partie en deuxième position alors qu'elle précède celle que nous avons écoutée juste avant. Il y a une raison particulière.
Oui, il y a une raison, bon voilà, qui était une raison de construction de l'émission que je voulais faire entendre comme premier extrait, donc peut-être ce qu'on peut trouver de plus typique dans cette écriture des messes brèves, c'est-à-dire le plus naïf possible. Vous l'avez entendu dans le premier extrait, l'accompagnement orchestral se réduit à sa plus simple expression. Il y a une mélodie magnifique, mais simple, très simple, donc cette mélodie populaire, et un accompagnement, une sorte de valse en dessous, pam plam plam pam plam plam, quelque chose comme ça, voilà. Et là, on a la même chose au niveau de la mélodie. On est donc dans, typiquement dans ce qu'on appelle le style galant, c'est-à-dire d'abord et avant tout, une mélodie qui va être accompagnée par quelque chose de très simple. Et là, on l'entend. Mozart, dans cet extrait, sophistique bien davantage l'accompagnement. On a cette espèce de bavardage en dessous de l'orchestre. Et je peux vous dire, pour l'avoir travaillé avec l'ensemble baroque, que ce bavardage n'est pas du tout facile pour les instrumentistes. Et donc, il y a là, je trouve quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a cette naïveté, mais qui est ici très clairement une fausse naïveté de la part de Mozart. Et d'ailleurs, ça va peut-être nous permettre de parler de la suite, c'est-à-dire que très probablement, Mozart ne va pas se contenter de ce niveau d'écriture et que ben, les orages s'amoncellent au-dessus de la tête de Mozart et de Colloredo.
Voilà. Oui, effectivement. Parce que après les 9 Missa Brevis, dont la dernière est composée en 1777, il va y avoir en 1779 une autre messe courte, mais qu'on n'appelle pas messe brève, c'est la messe du couronnement, commandée par l'archevêque de Salzbourg, Hieronymus von Colloredo Mansfeld, avec lequel Mozart entretenait effectivement des relations orageuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'elle mérite qu'on en dise quelques mots, cette messe du couronnement ?
Oui, elle est un petit peu plus ambitieuse, on va dire, sur le plan de l'écriture que les messes brèves, voilà, mais très loin, évidemment, de ce qui nous attend après, dans la deuxième partie de la courte vie de Mozart, mais oui, voilà, un peu plus ambitieuse que les messes brèves du style de celle qu'on vient d'écouter.
La grande œuvre sacrée qui va suivre, eh bien, c'est la messe en ut mineur, composée entre 1782 et 1783. Bien qu'inachevée, encore une œuvre inachevée, elle est considérée comme un de ses chefs-d'œuvre, toujours confondus. Vous-même, Michel, où la placez-vous parmi les autres messes célèbres ? On pense évidemment à la messe en si de Bach, mais pas seulement. En quoi cette messe en ut serait un authentique chef-d'œuvre ?
Alors, c'est un authentique chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, au moins par moment. Il y a peut-être quelque chose de surprenant dans l'écriture de la musique religieuse de Mozart, c'est que à la même période, il était capable d'écrire des chefs-d'œuvre absolus, sans aucune modération du mot, hein, comme je l'ai fait au début, dans certains passages, et pas dans la musique religieuse encore. Pourquoi ? On peut se poser la question, et peut-être une question fondamentale, au fond, de la foi de Mozart.
Oui.
C'est quelque chose qu'on ne se pose pas, par exemple, pour Bach. Il n'y a aucun doute que la foi de Bach était profonde et que donc lorsqu'il écrivait une œuvre religieuse, il le faisait bien entendu parce que c'était une commande, sauf la messe en si qu'il a écrite de son propre chef, de sa propre décision, mais il le faisait donc sur une commande, mais il y avait quelque chose d'incroyablement sincère, d'incroyablement profond dans la mise en musique de la vie religieuse intérieure. Alors que chez Mozart, on peut vraiment se poser la question. Il y a plusieurs choses qui nous incitent à poser la question. Évidemment, il est hors de question de balayer les choses d'un revers de main en disant ben, Mozart n'était pas croyant et il écrivait de la musique religieuse purement sur commande. C'est beaucoup plus compliqué que ça, probablement. Mais enfin, il n'y a pas de doute que Mozart était intellectuellement très attiré par le siècle des Lumières. On sait que dès le moment où il a intégré donc, la période Colloredo, c'est-à-dire la période de Salzbourg, où il était donc employé par le prince archevêque Colloredo, puisqu'il y avait un double casquette, hein, temporelle et spirituelle, il était déjà intéressé par la rencontre des francs-maçons et des loges maçonniques, dont il fera partie quelques années plus tard. Et donc, il y a ce double attirance chez Mozart entre certainement une tradition religieuse qui était encore très forte, évidemment, de son temps, et la tradition familiale, probablement, de son père en particulier, Léopold, et puis déjà une attirance vers le siècle des Lumières et quelque chose de plus rationnel. Voilà. Et donc, peut-être est-ce là ce qui fait qu'il ne s'est pas investi totalement, disons, dans la composition d'œuvres religieuses, peut-être une certaine retenue sur le plan de la foi.
Alors, concernant la messe en ut, authentique chef-d'œuvre, quelles seraient les parties, selon vous, qui relèveraient de ce qualificatif ?
Alors, pour moi, ce serait, plutôt que de citer des passages précis, enfin des noms, mouvements, disons, je trouve cette œuvre captivante parce qu'elle correspond à quelque chose de particulier dans la vie de Mozart. Mozart a fait ses études essentiellement musicales avec son père, Léopold. Et son père l'a dirigé, on va dire, vers ce qui était à la mode à l'époque, dans son pays natal, c'est-à-dire un rejet de la fin de la musique baroque de Bach. en particulier, c'est-à-dire du contrepoint triomphant, du contrepoint sévère, donc écriture difficile, qui nécessite des études poussées, etc., etc. Mais Mozart a quand même étudié le contrepoint, en Italie en particulier avec le Padre Martini, qui était un grand spécialiste du genre. Et ses premiers essais dans ce style d'écriture montrent que il n'avait pas d'appétence pour cette écriture. Voilà. Il était malhabile dans l'écriture du contrepoint. Son écriture s'épanouit bien davantage donc dans le style galant, la mélodie accompagnée, une mélodie toute seule, et un accompagnement très simple qui a pour charge de la mettre en valeur. C'est le contraire du contrepoint, donc, où on a cette accumulation de lignes mélodiques, les unes au-dessus des autres, qui toutes poursuivent leur propre chemin. Et puis, à la période de la composition de la messe en ut mineur, la découverte, qui sera un des grands chocs de la vie de Mozart, la découverte de la musique de Bach et de Händel. Et de Bach, il dira, cette chose extraordinaire, « Enfin, j'apprends quelque chose ». C'est-à-dire que Mozart avait une telle facilité d'écriture de la musique, on sait qu'il a écrit ses premières œuvres 7 ans, oui, quand même, oui. Voilà. Une telle facilité que tout lui semblait donné. De dire, donc, enfin j'apprends quelque chose en découvrant la musique de Bach, je pense que c'est tout dit.
Ce n'était pas un petit compliment.
Ce n'était pas un petit compliment. Il quitte Colloredo, trop de différences de caractère. Colloredo, disait Mozart, c'était un crétin et un voyou quand même, hein, donc voilà. Trop de différences de vision de la musique, puisque Mozart ne pouvait plus se contenter de ses petites messes brèves, il avait envie d'épanouir son style musical. Il s'en va, il passe une dizaine d'années sans écrire de musique religieuse, et là, il découvre la musique de Bach et la musique de Händel. Il a un de ses grands chocs esthétiques de sa vie, et c'est suite à ça, et alors on va entendre vraiment dans les extraits choisis, directement cette inspiration de la musique baroque de Bach et de Händel.
Alors je l'ai dit, la messe en ut est une œuvre incomplète.
Absolument.
Qu'est-ce qui manque en fait ? Alors a priori, il manque toute la partie du credo.
Il manque une partie, la deuxième partie du credo, absolument.
Oui, celle qui suit Et incarnatus.
Voilà,
est,
absolument,
oui, voilà,
il y a Et incarnatus, voilà. Et puis,
il n'y a pas d'Agnus Dei.
Il n'y a pas d'Agnus Dei, etc. Alors on se perd en conjoncture parce que, évidemment, pour savoir pourquoi il y a des parties manquantes, pour le Requiem, dont on parlera dans un instant, c'est presque plus simple de le comprendre puisqu'il est mort en l'écrivant, c'est à modérer un peu, hein, voilà. Mais quand même, en l'écrivant. Et donc, là, non, hein, c'est une œuvre donc, qui date de 82-83, il lui reste une petite dizaine d'années à vivre, et donc il aurait eu tout le temps de la compléter. Alors, c'est une œuvre d'une conception personnelle. Déjà, c'est une première chose intéressante, ça n'est pas une commande. Il souhaitait épouser Constance Weber, au grand dame de son père, donc Léopold, qui ne voulait pas de cette union, en lui disant qu'elle allait le détourner de ce qui était important dans sa vie, qui était la composition. Constance était à ce moment-là malade. Et Mozart a fait le vœu, s'il pouvait épouser Constance, c'est-à-dire, un, si elle guérissait, et deux, si il réussissait à franchir, disons, l'obstacle paternel, d'écrire une messe. Voilà. Et il a épousé Constance, qui est devenue Constance Mozart, et donc, ben, il a rempli son vœu. Alors, est-ce que, justement, on rejoint peut-être ce que je disais tout à l'heure, manquant de vraie inspiration profonde au niveau de la foi, une fois qu'il a eu écrit une messe...
Ça allait bien comme ça.
Voilà, ça allait bien comme ça, quoi. Je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse.
Oui,
hein,
c'est
voilà.
Une hypothèse qui se tient, en tout
qui
cas.
Qui se tient, voilà.
Voici un premier extrait de la messe en ut de Mozart, le Gloria, interprété ici par les chœurs du Collegium Vocal de Gand et de la Chapelle Royale, accompagné par l'orchestre des Champs-Élysées sous la direction de Philippe Hervaig. Gloria de la messe en ut mineur de Mozart, interprété par les chœurs du Collegium Vocal de Gand de la Chapelle Royale, accompagné par l'orchestre des Champs-Élysées, dirigé par Philippe Hervaig. Un commentaire sur ce que nous venons d'entendre, Michel.
Ben voilà, évidemment, j'ai choisi cet extrait à dessein pour illustrer ce que je venais de dire. Qui n'a pas remarqué l'influence de Bach ? Ce Gloria ressemble quand même au Gloria de la messe en si de Bach. Évidemment, il n'est pas semblable, hein, mais il ressemble, en particulier après l'énoncé, disons, à tout le chœur et tout l'orchestre, avec ses entrées en fugue, donc les quatre voix du chœur et de l'orchestre qui rentrent successivement, et qui ne pense à Händel à la fin, on a l'impression que c'est une citation de l'Alléluia, hein, du Messie de Händel, l'une des pièces les plus célèbres de toute l'histoire de la musique, que Mozart a voulu ici. Alors, a-t-il voulu la citer ? A-t-il été influencé ? Et vous savez, c'est très compliqué de savoir. On écrit des fois des choses, et les écrivains disent très souvent souvent d'ailleurs la même chose, qu'ils écrivent des choses qui font penser à un autre écrivain, mais c'est involontaire, c'est une sorte d'imprégnation, voilà. Mais en tout cas, là, clairement, cette influence de Bach et de Handel est très sensible dans ce début. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé tout à l'heure. Donc, il quitte l'archevêque Colloredo en 81 et il compose cette œuvre en 82-83. C'est-à-dire que dès qu'il a quitté l'archevêque Colloredo, on voit que sur le plan de la musique religieuse, il souhaite élargir sa palette musicale. Hein. Cette rencontre avec la musique de Bach et de Handel, mais pas seulement. La durée de l'œuvre, même si elle est incomplète, est beaucoup plus importante et elle a un orchestre beaucoup plus important avec des vents, des cuivres, etc. etc. Donc, dès l'année suivante, Mozart montre que s'il avait pu, à l'époque de Colloredo, il aurait voulu, là aussi, écrire des œuvres plus ambitieuses.
Encore un extrait de la messe en lutte mineure de Mozart, le Laudamus Te. Toujours dans une version des chœurs du Collegium Vocal de Gand, la Chapelle Royale, accompagné par l'orchestre des Champs-Élysées sous la direction de Philippe Hervaeg. Laudamus Te de la messe en ut mineure de Mozart, toujours dans la version dirigée par Philippe Hervaeg. Un autre commentaire sur ce que nous venons d'entendre à l'instant, Michel.
Voilà, là on est à l'opposé du style du Gloria que nous venons d'entendre. Très clairement, le Gloria montre le pied qu'avait encore Mozart dans la musique baroque, et en particulier ce choc dû à cette découverte donc assez tardive de la musique de Bach. Il faut savoir que Mozart connaissait très bien Bach, mais Johann Christian Bach.
Qu'il avait rencontré en Angleterre.
Et dont il disait d'ailleurs qu'il l'avait beaucoup influencé, que c'était le plus grand compositeur qu'il ait rencontré jusque-là. Donc il pouvait parler de Bach en disant c'est un très grand compositeur, mais pas le bon.
Un des fils
et pas le plus génial.
Pas le plus doué en
plus.
Pas
le plus doué. C'est-à-dire vraiment la musique maintenant de Johann Christian nous apparaît un tout petit peu conventionnelle, on va dire. Il y a un certain talent indéniablement, mais un peu conventionnel. Et puis, donc, ce choc de la découverte de Bach, papa, cette fois-ci, donc Jean-Sébastien, et de cette musique d'une profondeur, évidemment, et d'une complexité absolument inouïe. Et donc, il a été influencé par ça, et on entend cette influence dans le Gloria. Et puis là, avec ce Laudamus Te, on est clairement dans l'autre versant d'écriture de Mozart. On revient à ce qu'on appellerait la musique plus galante, c'est-à-dire une mélodie accompagnée, magnifiquement accompagnée, mais accompagnée de manière simple et destinée à mettre en valeur cette mélodie. Donc, alternativement, la mélodie est jouée par l'orchestre et chantée, bien sûr, par la voix de soliste. Et donc, moi, j'ai l'impression, en entendant cette musique, d'entendre un concerto avant l'entrée de la voix, un concerto pour piano. On s'attend à entendre le piano rentrer. Donc là, c'est l'autre versant de l'écriture de Mozart. Il revient à son style plus habituel, on va dire, qu'il gardera d'ailleurs toute sa vie, qui est le style galant, on pourrait dire. Bon, style galant est fait un petit peu...
Style galant à la Mozart.
Mais à la Mozart, c'est-à-dire avec du génie, évidemment. Voilà.
Voici un troisième extrait de la messe en ut mineure de Mozart, Et Incarnatus Est, toujours interprété par les chœurs du Collegium Vocal de Gand à Chapelle Royale, accompagné par l'orchestre des Champs-Élysées, dirigé par Philippe Hervaeg.
Thank you.
Incarnatus Est, extrait de la messe en ut mineur dans la version dirigée par Philippe Hervaig, avec cette magnifique soprano Christiane Holze. Un dernier commentaire sur cet extrait et sur cette œuvre, Michel.
Voilà, alors quand je disais tout à l'heure, pour répondre à votre question, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Bon, bah là, dans des fragments comme ça, là, il n'y a absolument aucun doute. Hein, voilà, on est au sommet de l'écriture de Mozart, à mon avis. Enfin, c'est toujours évidemment un avis personnel. Et j'ai choisi cet extrait, outre pour sa beauté, parce qu'il illustre un troisième, comment dire, versant de l'écriture de Mozart, qui est les opéras, qui, sans comprendre le texte, dirait qu'on est dans de la musique religieuse, là. Moi, j'ai l'impression d'entendre un air, peut-être de Tamina dans La Flûte Enchantée, peut-être de Donna Anna dans Don Giovanni, c'est-à-dire un air d'une héroïne d'opéra. Voilà, il y a toute cette extraordinaire utilisation de la voix, comme on l'entend, avec toutes ces possibilités dans l'aigu, ce legato, ce sens mélodique absolument extraordinaire. Et puis, cette écriture orchestrale géniale, ce dialogue, par exemple, à un moment donné, entre les vents, le basson et la voix, etc. Là, on est vraiment dans le plus grand Mozart, à mon avis. Et donc, oui, cette messe en ut, au moins sur certains plans, mérite d'être qualifiée de chef-d'œuvre.
Voilà donc pour la messe en ut mineur de Mozart. La pièce de musique sacrée suivante va être l'Ave Verum Corpus. Il s'agit en fait d'un petit motet composé sur le texte d'un hymne du XIVe siècle attribué au pape Innocent VI. Il est composé en avril 1791 pour la fête de Corpus Christi et Mozart le termine à Baden le 18 juin 1791, soit donc 6 mois avant sa mort, à peu près en même temps que La Flûte Enchantée. Ce sont deux œuvres qui sont contemporaines dans leur composition. Donc une pièce pour chœur, cordes et orgue. Pourquoi est-elle restée célèbre jusqu'à nos jours, Michel ? Cette petite pièce, c'est vraiment très court.
Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première est très simple, c'est qu'elle est vraiment magnifique. C'est pas une célébrité indue. Voilà, c'est vraiment une pièce absolument magnifique. Et puis une deuxième raison, c'est que, peut-être d'ailleurs par nécessité de la part de Mozart, mais elle n'est pas difficile. Et donc, évidemment, tous les chœurs, y compris des chœurs amateurs de tout niveau, peuvent, avec grand plaisir et avec un résultat très satisfaisant, s'emparer de cette œuvre. Et donc, voilà, une double raison de sa célébrité. C'est très intéressant, en tout cas, de voir que cette œuvre a été composée après presque 10 ans d'interruption de toute composition de musique religieuse.
En fait, entre la messe en ut que nous venons d'écouter et l'Ave Verum Corpus, il y a presque 10 ans qui passent sans aucune pièce de musique sacrée.
Voilà, c'est encore...
Donc, et là, c'est une commande,
il le fait, pour gagner de l'argent, et peut-être aussi avec une visée. On le sait, la fin de la vie de Mozart a été extrêmement pénible. Il était dans des problèmes d'argent absolument insolubles, dettes. C'était probablement quelqu'un d'extrêmement dépensier, d'extrêmement mal organisé sur le plan de sa vie domestique.
Oui, je pense qu'il ne faisait pas du tout attention à son argent, comme on dit aujourd'hui.
Il a accumulé des dettes qui le mettaient dans des situations extrêmement difficiles. Il était malade. On en reparlera peut-être à propos du Requiem. Et donc, il avait appris que le Kapellmeister de la cathédrale de Vienne était malade. Et peut-être avec un certain cynisme, en espérant, pourquoi pas prendre sa place, s'il n'est plus en état. Voilà, le Kapellmeister en question, un certain monsieur Leopold Hoffmann, survivra à Mozart.
Et donc, oui, parce qu'il est mort, trois ans après.
Il est mort 2 ou 3 ans après, absolument. Et donc, Mozart n'a pas été nommé Kapellmeister. Il a été nommé Kapellmeister adjoint. Et c'était un poste sans rétribution financière. Donc voilà, raté. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'il a composé ce magnifique Ave Verum Corpus.
Eh bien, je vous propose de l'écouter maintenant, cet Ave Verum Corpus de Mozart. Il est interprété ici par le Schutzchor of London sous la direction de Sir Roger Norrington.
Thank you.
L'Ave Verum Corpus de Mozart, interprété par le Schutzchor of London, sous la direction de Sir Roger Norrington. Un mot, Michel, sur cette interprétation, parce que c'est vous qui l'avez choisi.
Oui, là, absolument. Alors, c'est volontaire, évidemment, d'avoir choisi cette interprétation, parce qu'il y a eu un parti pris, je dois le dire, dans le choix des interprétations, qui n'est pas un parti pris avant écoute. J'ai écouté énormément de versions de toutes les œuvres proposées. Et en gros, on va dire qu'il y a deux types d'interprétations. Il y a les interprétations de Mozart sur l'ensemble de ses œuvres religieuses qui ont été conçues avant la révolution baroque, de l'interprétation baroque sur instrument d'époque, et après. Alors vous allez me dire, mais quel rapport, on n'est pas dans la musique baroque. Voilà, oui, certes, mais comme on l'a vu dans le cours de cette émission, Mozart a été très influencé par la musique baroque, donc par Johann Christian Bach, le fils de, et puis directement par les œuvres. Il n'a pas rencontré Jean-Sébastien Bach, mais par les œuvres de Jean-Sébastien Bach et de Handel. Et donc, la musique baroque est encore très présente dans la musique de Mozart. Alors, il y a deux manières de voir la musique de Mozart. Comme un compositeur avant les romantiques, c'est ce qu'avaient tendance à faire les grands chefs, on va dire entre guillemets, romantiques, donc Karajan, Bernstein, Giulini, etc., etc., ou bien comme un successeur de la musique baroque. Et je trouve que cette révolution dans l'interprétation a apporté beaucoup aussi à la musique suivante, c'est-à-dire qu'elle changeait le regard qu'on portait. C'est le successeur de la musique baroque, ça n'est plus de la musique baroque, mais c'est le successeur et non pas le prédécesseur de quelque chose qu'il ne connaissait pas, qui allait être Beethoven, etc. Alors, en réécoutant donc beaucoup de versions de cet Ave Verum, je trouvais qu'il y avait quelque chose de trop, entre guillemets, volontairement expressif, trop pathétique, trop sostenuto, trop lent. Mozart, par exemple, marque que c'est un sébarré, c'est-à-dire une mesure assez allante. Alors, il marque adagio, ce qui veut dire lent, mais avec une mesure assez allante. Et on entend dans cette, par exemple, introduction orchestrale, on entend très fréquemment quelque chose de très étiré, qui, à mon avis, ne correspond pas à la vraie expression de cette œuvre, qui a une certaine part de pudeur et qui n'est pas ultra expressive. Donc c'est un choix personnel, je l'avoue, je l'assume, mais je pense qu'on peut tout à fait en faire un autre, évidemment.
On en arrive à l'œuvre que tous nos auditeurs doivent attendre, l'œuvre ultime, tout du moins ce qui concerne la musique sacrée, puisque la très célèbre messe de Requiem en ré mineur n'est pas tout à fait la dernière composition de Mozart. On sait qu'elle est inachevée, puisqu'il meurt le 5 décembre 1791 sans avoir pu la terminer. A priori, les deux tiers seraient vraiment de sa main, et on a coutume de dire que le Requiem tel qu'on le connaît aujourd'hui a été achevé par Franz Xaver Sousmayer, un élève de Mozart. Il semble cependant, Michel, que d'autres compositeurs de l'époque et de l'entourage mozartien aient aussi participé à la finalisation de l'œuvre, à la demande de Constance, la veuve de Mozart.
Voilà, alors effectivement, demande de Constance d'ailleurs, qui est une demande une nouvelle fois très intéressée. Constance, donc l'épouse de Mozart, se trouve comme son mari dans une situation financière catastrophique.
Dans le dénuement, on peut le dire.
Dans le dénuement, absolument. Et il se trouve que, chance inouïe, donc Mozart reçoit cette commande, à la toute fin de sa vie, de composer une messe de Requiem. Et évidemment, le commanditaire, on en parlera dans un instant, verse une partie de l'argent de cette commande, mais la totalité sera versée à l'achèvement de la commande. Or, Mozart meurt avant d'achever l'écriture. Et à ce moment-là, Constance se dit, très naturellement, on pourrait dire, hein, c'est pas que du cynisme, c'est aussi du réalisme, on va dire, hein, dans une vie qui était quand même très difficile à l'époque pour les artistes et pour les conjoints des artistes, si cette œuvre n'est pas achevée, je ne toucherai pas la fin de la commande qui avait été promise. Et donc, elle demande effectivement à des élèves de son mari d'achever l'œuvre. Alors, pendant un temps, bon, il reste beaucoup de mystères, hein, sur cet achèvement. On en découvre encore tous les jours, au fur et à mesure que, on va dire, la recherche musicologique se scientifise. Le mot est un néologisme, mais utilisons-le. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a des armes meilleures pour analyser les écritures, les encres des écritures, etc., etc. Bon, donc, il semble que Sussmayer n'ait pas été le seul à participer à cette écriture. Mozart ne l'estimait pas. C'était un des élèves qu'il avait, qui devait être purement pour remplir les caisses, mais il en a dit à plusieurs reprises, il l'a même écrit à son épouse Constance avant sa mort, que c'était un âne. Et donc, il était, en tout cas pour toutes les autres œuvres qu'on a de lui, d'une totale incapacité d'écrire les passages qui n'ont pas été écrits par Mozart. On sait maintenant qu'un autre élève de Mozart a participé, il s'appelle Abler, et cet élève était beaucoup plus apprécié de Mozart.
Voilà, Joseph Abler.
Absolument. Et donc, il a participé indéniablement à l'écriture de certains passages, et puis un certain Stadler, donc, qui aurait lui aussi mis la main à la pâte, et il y en a peut-être d'autres. Ce qui reste mystérieux, c'est, on sait que Mozart a écrit certaines choses, de sa main, le manuscrit le prouve. Attention, parce que Süssmayer a recopié les parties rajoutées, qui ne sont peut-être pas toutes de lui, mais a recopié en imitant l'écriture de Mozart, pour que le commanditaire ne voit pas la différence et ne voit pas la supercherie. Et donc, voilà la difficulté, qu'est-ce qui est de l'un, qu'est-ce qui est de l'autre. Et même dans les parties non composées par Mozart, est-ce que Mozart n'aurait pas à ses élèves donné des indications orales ou même écrites qu'on n'a pas retrouvées, griffonnant sur un bout de portée musicale, tiens, tu écriras le Benedictus, voilà le thème du Benedictus. On sait par exemple que le Benedictus, qu'on va entendre tout à l'heure, il n'y a rien de Mozart dans le Requiem. Mais on ne sait pas s'il n'a pas donné d'indication orale ou écrite qu'on aurait perdue pour guider la main du compositeur qui a écrit ça, parce que c'est tellement magnifique. Quand on compare aux autres œuvres de Süssmayer, on se dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu un petit grain de la part de Mozart. Voilà, donc beaucoup de mystères autour de l'achèvement de cette partition.
Alors, ce Requiem s'inspirerait beaucoup d'un autre Requiem, d'un certain Haydn, mais pas Joseph.
Voilà.
Michael.
Le frère. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable dans l'histoire de la musique. Donc Joseph Haydn, qui est un compositeur très connu, qui reste un tout petit peu difficile à faire apprécier du grand public d'ailleurs.
Oui.
Alors les musiciens l'adorent, parce qu'il est très agréable à jouer. Les pianistes adorent les sonates. Il y a beaucoup de sonates. Haydn a beaucoup écrit. Il y a beaucoup de sonates pour piano. En musique de chambre, il a écrit des quatuors et des trios, en particulier des trios avec piano absolument merveilleux, des symphonies, bon, c'est peut-être la partie la plus connue, splendide, mais il n'arrive pas à franchir vraiment la barrière du grand public. Et pourtant, ben, Mozart l'adorait. Mozart appelait effectivement Haydn Papa Haydn, et Haydn a écrit à Léopold Mozart, son père, donc, pour lui dire « Votre fils est le musicien le plus génial que j'ai jamais entendu », alors que Mozart était encore très jeune à l'époque. Donc voilà, il y a cette admiration mutuelle. Bon, mais dans tout ça, on a oublié un frangin, qui est effectivement Michael Haydn, compositeur lui-même, compositeur de très grand talent, dont on a peu d'œuvres finalement, on a retrouvé relativement peu d'œuvres, ou il en a relativement peu écrites, je ne sais pas, mais dont ce Requiem, qui est alors vraiment un chef-d'œuvre, et dont on sent effectivement beaucoup l'inspiration dans le Requiem de Mozart.
Voici un premier extrait de la messe de Requiem en ré mineur de Mozart, parce que c'est le titre complet, on dit toujours le Requiem de Mozart, mais c'est la messe de Requiem en ré mineur. Il s'agit de la première partie, l'introitus, dans une version du Monteverdi Chor, dirigée bien sûr par John Eliot Gardiner. L'introitus au tout début de la messe de Requiem en ré mineur de Mozart, interprété par le Monteverdi Chor sous la direction de John Eliot Gardiner. Alors là, on est sûr que c'est du Mozart, Michel.
Alors là, bon, là, je crois que vraiment...
Il n'y a pas de discussion.
Il n'y a pas de discussion, doublement pas de discussion. D'abord parce qu'effectivement, sur le plan scientifique, on sait que ça, c'est de la main de Mozart sur les manuscrits qu'on a retrouvés. Et la totalité, c'est-à-dire non seulement, bien sûr, la mélodie, mais toutes les parties vocales, les parties orchestrales. Et d'autre part, parce que, ben voilà, même si on n'est pas musicologue, là, je crois qu'il suffit d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir le cœur surtout, et on est vraiment frappé par le génie qu'il y a dans cette musique, et donc voilà, c'est extraordinaire. Tout le monde connaît ce début, mais on ne peut pas parler du Requiem de Mozart sans le faire entendre.
En plus, la version Gardiner est magnifique.
Voilà, c'est absolument magnifique, j'aime beaucoup ce début, dans cette version, le début en lui-même est magnifique, mais dans cette version, parce qu'il y a le côté complètement musique de chambre, ce dialogue extraordinaire entre trois instruments. C'est-à-dire que Mozart, là, a à disposition un énorme orchestre, hein, qui comporte donc énormément d'instruments. Et il commence son œuvre avec ce tout petit accompagnement des cordes. Pom, plim, pom, plim. Et au-dessus, cette mélodie qui passe donc aux deux clarinettes, ou plus exactement aux deux cordes basset, qui étaient donc l'ancêtre des clarinettes, on pourrait dire, avec ce son plus fragile, plus ténu, et le dialogue avec le basson, les deux bassons, ces quatre instruments qui vont dialoguer, c'est absolument sublime, et on va commencer une œuvre donc d'une grande ampleur par ce côté musique de chambre, hein, très intime, qui est bouleversant. Et puis, quelques mesures après, l'entrée des trombones. Donc, on a dès le début de ce requiem les deux versants du requiem, le repos, bien sûr, mais aussi l'effroi de la mort qui certainement se partageait dans l'esprit de Mozart.
Tout de suite, un deuxième extrait du Requiem de Mozart et c'est la deuxième partie, le Kyrie, toujours interprété par le Monteverdi Chœur, dirigé par John Eliot Gardiner. Le Kyrie, deuxième partie du Requiem, interprété par le Monteverdi Chœur, toujours sous la direction de John Eliot Gardiner. Alors ça, a priori, c'est du Mozart, peut-être pas complètement.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, très clairement, le thème de ce Kyrie est de Mozart. Et l'idée d'en faire une fugue, alors là, ceux qui ne connaissent pas la fugue, s'ils veulent savoir ce que c'est qu'une fugue, écoutez ce Kyrie du Requiem de Mozart. C'est vraiment le prototype d'une fugue, c'est-à-dire ces entrées successives sur le même motif à toutes les voix du chœur qui se succèdent, mais surtout qui s'accumulent les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'une fois que l'entrée est faite, évidemment, chaque voix continue son bonhomme de chemin et il faut réussir donc à faire rentrer la voix suivante, puis la troisième, puis la quatrième, tout en continuant donc à tricoter chacune de ces voix. J'ai choisi cet extrait parce qu'il illustre vraiment cette volonté de Mozart de revenir à ce style un peu ancien, un peu oublié, qui était celui de Bach, de l'écriture du contrepoint sévère, rigoureux, hein, qui était celui de la fin de la musique baroque. Alors, totalement de Mozart ou pas, il y a certaines hypothèses comme quoi la totalité de l'écriture de la fugue ne serait pas de lui, parce que quand un compositeur écrit une fugue, il y a une certaine logique dans l'écriture, et on pourrait dire comme un peintre qui a un atelier avec des aides, il dit, bon bah vous me terminez ce personnage, voilà, il en est peint l'esquisse, et vous me le terminez, vous faites les vêtements, etc. Voilà. Peut-être que Mozart a confié ça. En tout cas, il y a quelque chose dans cette fugue qui montre qu'elle reste un tout petit peu scolaire, si je peux me permettre, hein, ça paraît peut-être un peu présomptueux de dire ça. Chez Bach, il respecte le modèle de la fugue et il s'en évade en même temps par son génie. Et là, on sent que Mozart, dans cette œuvre, en tout cas, reste un peu les pieds sur terre par rapport à cette écriture, peut-être parce que ça n'est pas profondément l'écriture qui lui convient.
Nous allons maintenant écouter un troisième extrait du Requiem. Cette fois-ci, il s'agit du Dies Irae. Il est interprété par l'ensemble Arcis Bourgogne, dirigé par Pierre Cao.
Thank you.
Les Cirées, troisième extrait du Requiem de Mozart, interprété ici par l'ensemble Arcis Bourgogne, dirigé par Pierre Cao. Alors ça, c'est du Mozart, on en est certain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi cette version de cet ensemble que, j'avoue, je ne connaissais pas.
Voilà, alors c'est volontairement, d'abord, on l'entend, parce que c'est d'une très bonne qualité, et que donc, il n'est pas nécessaire parfois d'être une star internationalement connue pour faire de l'excellente musique et d'excellents enregistrements. Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait? Outre sa qualité, c'est pour illustrer quelque chose de très particulier à cette écriture du Requiem. C'est que cette œuvre est une œuvre d'abord et avant tout de chœur. Et Arcis Bourgogne est un chœur. Le chef qui dirige, Pierre Cao, est un immense chef de chœur, un des plus grands chefs de chœur français, mais qui a gardé cette couleur dans sa carrière, disons, voilà. Et donc, c'était pour illustrer le fait que Mozart a consacré l'essentiel des numéros et l'essentiel, à mon avis, de la qualité d'écriture aux parties chorales. Et qu'un excellent chœur, comme cet excellent chœur d'Arcis Bourgogne, peut donc donner une très belle version du Requiem de Mozart. On entend là un autre versant encore de la musique de Mozart, alors là, vraiment l'effroi de ce jour de colère. Hein. Et il ne faut pas interpréter nécessairement Mozart comme quelqu'un qui va arriver avant la musique romantique, mais indéniablement, il y a cet aspect chez Mozart, puisque là, on sent quand même venir tous les compositeurs
romantiques. Pas seulement dans cette œuvre, mais entre autres, bien sûr, en tout cas dans ce passage-là.
Dans ce passage-là, absolument.
Nouvel extrait du Requiem de Mozart avec le très célèbre et poignant Lacrimosa. Alors là, c'est une version dirigée par Claudio Abbado et interprétée par l'orchestre et les chœurs du Festival de Lucerne. Lacrimosa, un des extraits les plus célèbres de la messe de Requiem en ré mineur de Mozart, interprété par l'orchestre et les chœurs du Festival de Lucerne, sous la direction de Claudio Abbado. Alors ce Lacrimosa, là, c'est un peu plus mystérieux, parce que le début, on est certain que c'est du Mozart.
Voilà.
À partir d'un moment, ça devient autre chose, ça serait Soussmayer. Mais à la fin, ça redevient génial. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il se passe, je pense que là, on est vraiment au cœur de ce trouble par rapport à cette œuvre. Hein. Effectivement, seules les quelques premières mesures sont vraiment de l'écriture de Mozart. Hein. Je ne parle pas de l'auteur,
oui,
au
de
fond.
L'écriture, voilà. Bien sûr.
Mais l'écriture manuelle. Et puis après, l'écriture change, malgré la volonté de camoufler donc, son écriture. C'est une écriture qui n'est plus celle de Mozart. Mais je ne peux pas croire que cette âne, cette bourrique, comme le qualifiait Mozart, ait pu composer une musique aussi géniale après Mozart. Et donc, à mon avis, bien sûr, l'écriture change, mais les consignes étaient données. Et Soussmayer, qui était quand même un bon élève, on va dire, même s'il n'avait pas de génie, même pas beaucoup de talent, était capable de suivre les consignes que lui donnait son professeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène magnifique du film de Milos Forman, Amadeus, où on voit Mozart dicter sa musique comme inspiré par l'urgence de sa mort. Et je ne sais pas si c'est complètement irréaliste, ça. Aucun doute pour moi que cette musique est vraiment inspirée par Mozart dans son intégralité.
Un cinquième et dernier extrait du Requiem, le Benedictus, toujours interprété par l'orchestre et les chœurs du Festival de Lucerne sous la direction de Claudio Abbado.
Thank you.
Le Benedictus du Requiem de Mozart dans la version de l'orchestre et les chœurs du Festival de Lucerne dirigé par Claudio Abbado. Michel, un dernier mot sur cette partie de l'œuvre, sur l'interprétation qu'on vient d'entendre, mais plutôt sur l'écriture, parce que alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Et ça, c'est pas Mozart, là.
Voilà. Alors là, on n'a rien de la main de Mozart sur le Benedictus, par exemple. Hein, ça fait partie des quelques pièces de la fin du Requiem dont il n'y a aucun fragment de l'écriture de Mozart. Rien n'empêche de penser que là aussi, il a pu donner des consignes, hein, parce que c'est pareil, c'est quand même vraiment de la très belle musique. Il y a autre chose de troublant qui est, je ne sais pas si vous avez en mémoire cette intervention, donc des cordes bassets, pam, 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 pam. Ça, c'est très maçonnique, en réalité. L'orchestration, la couleur orchestrale, et puis cette espèce de scansion, comme ça. Donc, est-ce que Mozart, là aussi, a donné des consignes? Est-ce que Abler, qui était un élève estimé de Mozart, a mis la main à la pâte et qu'il s'est avéré qu'inspiré par le génie du reste du Requiem, il a été, voilà, pour les auditeurs très attentifs, une version étrange, parce qu'elle n'est pas celle qu'on entend habituellement, hein, voilà. Et donc, c'est une version reconstituée par un musicologue, très d'ailleurs confirmé, quoi, disons, à la fin du XXe siècle, disant que probablement la version qu'on jouait habituellement n'était pas la bonne. Et enfin, l'interprétation. Alors, j'ai parlé des chefs romantiques. On pourrait dire qu'Abbado et l'orchestre moderne qu'il dirige fait partie de cette grande tradition des chefs romantiques, sauf que c'était un musicien génial.
Ah oui, oui, oui.
Et il a su relire la musique qui précédait la musique romantique, qui était son pain quotidien, et effectivement s'inspirer des sources d'inspiration même de Mozart pour retrouver une certaine forme de dépouillement. Par exemple, si on l'entend, et il demande à ses solistes vocaux, c'était aussi ça que je voulais illustrer, qu'il y a des solistes vocaux, mais très rarement en solo, presque toujours en ensemble, dans le Requiem, il a demandé à ses solistes vocaux de ne pas trop vibrer pour ne pas transformer ce Requiem de Mozart en un opéra de Verdi, par exemple, ou de Donizetti. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette version d'Abbado, qui est en concert également, qui date de la fin de sa vie. C'est très bouleversant.
Oui, il a presque 80 ans.
Voilà. C'est très retenu et très bouleversant de l'entendre. Voilà. Donc ce Requiem, cette destinée extraordinaire qui est peut-être due aussi au mystère de sa commande, puisqu'il a été commandé par un certain comte von Walsegg.
Voilà.
Oui. Mais de manière anonyme, c'est-à-dire qu'il envoyait des émissaires, plusieurs émissaires différents pour commander cette œuvre. On a longtemps pensé, donc il y a eu tout ce roman qui a été fait autour de la mort de Mozart et que peut-être ça aurait été des émissaires de l'autre monde venus. Bon, c'est beaucoup plus, probablement beaucoup plus terre à terre. Walsegg a dirigé la création de cette œuvre, la première officielle, en dirigeant lui-même l'œuvre. Et sur la partition des musiciens, il y avait marqué comme nom de compositeur, non pas Mozart, mais Walsegg. Et donc, probablement, il l'a fait commander de manière anonyme pour pouvoir s'en attribuer la paternité après, même si ça ne pouvait résister à aucune analyse sérieuse. Je crois que c'était un type un peu fantaisiste qui n'était pas à une...
Oui, alors, apparemment très excentrique.
Voilà, très excentrique.
Il se manchait avec un ego
surdimensionné. Et voilà, et pas beaucoup de pudeur et pas beaucoup de réalisme.
Scrupule non plus.
De scrupule non plus, voilà. Tout à fait.
Voilà, c'est donc avec le Requiem que nous terminons ce numéro dédié aux pièces de musique sacrée composées par Mozart. Il était logique de conclure avec cette œuvre parce que c'est à la fois la dernière, c'est une des plus connues du grand public et c'est aussi une des plus mystérieuses en raison des doutes qui subsistent encore sur les parties que l'on peut attribuer de manière certaine à Mozart. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons eu à la préparer et à l'animer Michel Brun et moi-même. Merci infiniment Michel d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir apporté une fois de plus votre savoir et votre passion communicative à ce quatrième volet de notre cycle Mozart, ainsi que nous allons prolonger la semaine prochaine avec les symphonies ou la musique de chambre, et là, quel que soit le genre concerné, il va falloir faire des choix cornéliens parce que la production de Mozart y est pléthorique, et je pèse mes mots en utilisant cet adjectif. Pour vous en parler, je vais recevoir à cette occasion le renfort précieux et éclairé de Serge Krichevski. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre écoute toujours fidèle, très bon week-end et excellente semaine à tous.